Bonjour tout le monde, bienvenue au Support Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal, par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin. Nous sommes vendredi, le 20 janvier. C'est le jour du concours de dessin aujourd'hui. Je suis avec Arpin Basu. Bonjour Arpin, comment ça va?
Salut, ça va bien Marc-Antoine, ça va bien. On est vendredi, il y a l'Élite qui s'en vient. Samedi soir au Centre Bell, ça devrait être cool, mais avant ça, on a des sujets à décortiquer un peu. C'est pas à chaque semaine que le DG du Canadien nous parle pendant presque 45 minutes concernant l'état de son équipe et plein d'autres sujets. Alors, on pensait qu'on devrait revenir là-dessus aujourd'hui.
Oui, absolument. Puis, on va également un petit peu plonger dans la question des nombreux blessés. C'est pour la troisième année de suite. Le Canadien va finir dans le top 5 des matchs ratés en raison de blessures. Alors, on peut comprendre à un moment donné que c'est y a le hasard qui rentre en ligne de compte, puis c'est juste des mauvais bons, des malchances à l'intérieur des matchs, mais y a-t-il plus que ça? Dans l'ensemble, je pense qu'on a eu droit à une conférence de presse assez intéressante de Kent Hughes, qui n'a peut-être pas eu les feux d'artifice de certaines de ses rencontres précédentes. Mais je pense que c'est en même temps, ils sont les deux pieds dans le processus qu'ils ont entamé avec une équipe qui performe globalement peut-être à la hauteur de ce à quoi eux ils s'attendaient au sein de l'état-major. Mais écoute, je pense qu'il y a une phrase que Kent Hughes a dit qui est ressortie. Plus que le reste, puis on va commencer la discussion là-dessus. Écoutons Kent Hughes à ce sujet.
On est rendu à une étape où les victoires sont bonnes, mais jusqu'à un certain point, puis les défaites sont pas bonnes, mais jusqu'à un certain point. Alors, c'est important pour nous, je crois beaucoup dans la culture de l'équipe, je ne crois pas de mettre une équipe qui ne peut pas gagner, où il n'y a aucune accountability responsable des joueurs envers l'équipe. Ils ne savent pas comment gagner parce que je trouve que dans ce contexte, les joueurs deviennent très individuels. Puis tu ne peux pas gagner dans la Ligue nationale avec 23 joueurs individuels. Alors, c'est de trouver l'équilibre, vraiment de trouver l'équilibre. Mais l'attente, c'est que quand les joueurs embarquent sur la glace, ils embarquent pour gagner le match.
Bon, mais ça, c'est une réponse de Kent Hughes, d'une question de notre collègue Jean-François Chaumont du Journal de Montréal qui disait, parce que dans le fond, le thème de cette conférence de presse-là, clairement, c'était l'équilibre. Et en fait, Kent Hughes a mentionné le mot équilibre aussitôt qu'il a été demandé. La première question, ça fait un an que vous êtes ici, qu'est-ce que vous avez appris? Puis il a dit, j'ai appris à quel point tu as besoin de l'équilibre dans tout ce que tu fais. Puis quand tu regardes l'équipe, il y a un équilibre entre jeunes et moins jeunes, il y a équilibre entre développement et des résultats. Il y a plein d'exemples. Tout ça, c'est touché par l'équilibre. Alors, la question de Jean-François, c'était où est-ce que tu trouvais l'équilibre entre ce désir-là d'avoir un environnement qui est sain, qui est compétitif, qui n'est pas perdant, mais en même temps, vouloir repêcher haut dans le prochain repêchage pour aller chercher un joueur de talent, même si lui a mentionné Connor Bedard, mais même là, les joueurs juste après lui sont très talentueux. Alors ça, c'était sa réponse à ça. Alors, c'est ça le contexte. Alors, quand il dit que, tu sais,
les victoires sont bonnes, mais jusqu'à un certain point, là,
jusqu'à
ça, c'est
un certain point, puis les défaites sont pas bonnes, mais jusqu'à un certain point, ouais. Il parle de ça. Alors, le lendemain, j'ai décidé de demander à Martin Saint-Louis, parce qu'évidemment, il a mentionné qu'il a dit ça à Martin. C'est quoi sa réaction à ça? Puis, Martin, il a comme relancé la question à moi en disant, c'est quoi, comment t'as perçu cette réponse-là? Puis j'ai dit que moi, je l'ai perçu comme ta réalité est très différente que celui de Kent. Tu sais, vous avez deux réalités différentes. Puis il a dit non, c'est pas ça. Kent, ce qu'il voulait dire... c'est que les victoires sont bonnes, mais ils ne sont pas bons si on oublie le développement. Et les défaites ne sont pas bons, mais ils sont bons si on développe nos joueurs, même dans la défaite. Alors, tu sais, lui, il dit que moi et Kent, on est sur la même page là-dessus. Alors, j'ai pas voulu comme relancer en disant que, honnêtement, c'est pas de ça que Kent parlait, mais en tout cas, on laisse ça comme ça. Mais c'était la première fois que Kent Hughes a dit tellement ouvertement et clairement que, effectivement, oui, on veut pas avoir une culture perdant. Puis, honnêtement, il a expliqué longtemps pourquoi c'est pas sain. Et je suis d'accord avec lui, en fait. Honnêtement, j'ai aucun problème avec ça. Tu veux pas être, tu sais, demandons aux Blackhawks de Chicago comment ça va cette saison. Puis, je pense qu'ils vont dire qu'ils trouvent ça quand même assez lourd. Puis, c'est pas un environnement dans lequel tu veux développer des joueurs. Puis, en fait, les Blackhawks sont pas en train de vraiment développer beaucoup de leurs jeunes joueurs en ce moment. Ils les ont gardés loin de la situation. Alors, ils méritent un peu de crédit pour ça. Mais c'est pas le cas avec les Canadiens. Les Canadiens ont plusieurs jeunes joueurs qui voient dans leur avenir, puis il faut créer cet environnement-là. Mais pas trop. C'est comme il veut, même s'ils sont pas dans le coup ou même s'ils n'ont pas les meilleures chances de repêcher numéro 1, je pense qu'un choix dans le top 5 serait très intéressant parce que je dirais qu'il y a probablement 4 joueurs dans ce QV-là. Quand tu parles de Connor Bedard, Adam Fantilli, Leo Carlson et Matvei Michkov, qui seraient probablement classés plus haut que Juraj Slafkovský s'il était en 2022, s'il était éligible en 2022 au lieu de 2023. Alors, c'est 4 talents qui auraient probablement allé numéro 1, qui auraient probablement été repêchés numéro 1 en 2022. Alors, puis tu peux même faire l'argument pour d'autres joueurs, tu sais, c'est comme pour que ça soit plus que 4. Alors, se trouver dans ces eaux-là, au repêchage, je pense que l'organisation trouve ça quand même assez important. Mais c'est difficile de communiquer ça à ton coach. Alors, c'est pour ça que j'ai trouvé ces déclarations-là surprenantes et un peu révélatrices que c'est quelque chose que le DG a dit à l'entraîneur. Et le fait que l'entraîneur l'a pris d'une façon différente... Ça, c'est autre chose.
Ben, c'est parce que c'est deux choses. Oui. Je pense qu'en fin de compte, il parlait de deux choses qui sont un peu différentes. La manière dont Kent Hughes, dans l'extrait qu'on vous a fait jouer, il est clairement question d'un au choix repêchage. Puis je pense que ça, jusqu'à un certain point, Kent Hughes, là, c'est jamais vraiment caché de ça. Il l'a jamais dit de façon aussi explicite. Puis je pense que c'est ça qui rend la chose digne d'intérêt. Mais je pense qu'il y a toujours eu une envie, une espèce de convoitise dans l'état-major du Canadien, de dire hey, « si on pouvait avoir un haut choix au repêchage, ça nous aiderait. » Mais la différence par rapport à d'autres équipes comme les... Ben, d'abord et avant tout, tu donnais l'exemple des Blackhawks de Chicago. Je pense que c'est une équipe qui est probablement encore mieux placée à ce niveau-là que Anaheim ou l'Arizona. C'est que tu peux déployer une équipe qui va perdre puis ne pas trop être dérangé par ça parce que tu dis « je vais repêcher premier ». Mais quand tu as déjà plusieurs jeunes joueurs qui font partie de ton avenir, qui font partie de cette équipe-là, ben il faut aussi que tu t'arranges pour que quand tu plantes ton arbre, il pousse droit. Et il faut faire attention aussi à ton objectif. Si tu dis « j'espère qu'on perd », ça va contaminer les jeunes joueurs à qui tu vas demander de gagner plus tard. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que tu traces la ligne. Puis, tu sais, quand tu dis, nos attentes, c'est que lorsqu'ils sautent sur la glace, les joueurs jouent pour gagner. C'est le travail de Martin Saint-Louis. Puis, je pense qu'il n'y a aucun doute que on mise sur le fait que les joueurs vont chercher à s'améliorer, les joueurs vont chercher à gagner. Puis, il faut que tu entretiennes, puis que tu stimules cette culture-là. Si tu veux faire en sorte que ton arbre va pousser droit. Puis, tu sais, à Chicago, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font partie de l'avenir qui jouent à Chicago. Tu sais, Lucas Schreichel serait prêt à jouer dans la Ligue nationale et pourtant, on le tient loin. Il y a eu une petite saucette, mais de manière générale.
Ils l'ont renvoyé
tout de suite, c'est pas mal. Ouais. Tu sais, alors, tandis que Anaheim, je pense en début de saison, ils ne devaient pas se voir aussi bas qu'ils le sont, mais ils ont des Trevor Zegras, des Mason McTavish, des gars comme ça, Drysdale s'il n'avait pas été blessé, mais tu sais, ils ont des jeunes joueurs qui font partie de leur noyau futur, puis ils doivent à quelque part avoir la même préoccupation que le Canadien à ce niveau-là, puis c'est la même chose pour les Coyotes. Alors, tu sais, c'est tellement...
Les Blue Jackets aussi, là.
Ouais, écoute, les autres.
Ouais.
Moi, les Blue Jackets, si ça n'avait pas été des blessures, je ne pense pas qu'ils seraient dans cette discussion-là. Là. Ils ne seraient pas une équipe de série, mais je ne pense pas que ce serait parmi les trois ou quatre pires équipes de la Ligue.
Non. Mais en fait, en ce moment, c'est le pire équipe de la Ligue. Ils ont une fiche de 13, 30 et 2. Mais je pense que, tu sais, si t'es Jarmo Kekalainen, oui, effectivement, après avoir signé Johnny Gaudreau, après avoir tout ce qu'ils ont fait pendant la saison morte, c'est clair qu'ils se voyaient pas là. Et c'est effectivement, c'est les blessures, c'est aussi le rendement de leur gardien qui fait en sorte qu'ils se trouvent où ils se trouvent en ce moment. Mais c'est aussi, tu sais, dans les circonstances, tu te dis, OK, on se pensait pas que ça allait arriver, ça. Mais vu que c'est arrivé, on va pas faire grand-chose pour le changer. C'est des fois, il faut juste accepter les faits et juste essayer. En fait, exactement ce que le Canadien a fait l'année passée, dans le fond. Il se trouvait là où il pensait pas se trouver. Il y avait une nouvelle direction, un nouveau management qui est rentré, puis Jeff Quartin était comme, bon, ben, on va voir où ça nous mène. Puis ça les a menés vers le premier choix overall au repêchage. Le meilleur exemple de ça, c'était pendant, en fait, le fameux voyage pendant le temps des fêtes où il n'y avait pas d'effectifs. Tout le monde a tombé au COVID. Il y avait les blessures. Je pense qu'ils ont joué un match avec 16 joueurs, si je ne me trompe pas. À un moment donné, là, il y a eu des joueurs qui ont probablement joué leur seul match, qui ne vont jamais jouer dans la Ligue nationale de hockey. Cam Hillis a fait ses débuts. Brandon Baddock, puis le Canadien, a décidé de jouer ces matchs-là. Et écoute, il y a plein de raisons pourquoi c'est compliqué de replacer les matchs et tout ça, mais je pense qu'une partie de ça, c'est comme, OK, on va juste prendre nos défaites, puis on va y aller avec. Oui. Mais c'est ça que le Canadien ne voulait pas faire une autre fois. Puis en fait, la première fois qu'on a rencontré Ken Hughes, il y a un an, pas mal, c'était en fin janvier l'année passée. Puis je me rappelle très bien qu'il avait dit que nous, on ne serait pas dans la course pour Connor Bedard. Il l'avait mentionné là, à cette époque-là. Et dans le fond, ils ne le sont pas, mais ils sont assez proches où, je pense, tu sais, ils ne veulent pas monter trop haut dans le classement non plus. Tu ne veux pas dire, parce que là, en ce moment, Columbus a 13 points de retard sur le Canadien. Alors, espérer terminer dernier, c'est pas quelque chose qui est vraiment réaliste pour le Canadien. C'est pas quelque chose qu'ils veulent non plus. Mais quand ils parlent, quand Ken Hughes dit que les victoires sont bonnes jusqu'à un certain point, c'est de ça qu'ils parlent. T'sais. C'est comme, oui, on va gagner, mais pas trop. On va prendre ça un peu mollo. S'il y a des équipes qui peuvent nous rattraper, tu regardes Vancouver est sur le point salaire. Tout le monde le sait, sauf Bruce Boudreau salaire, mais ils sont sur le point de faire un changement d'entraîneur. On a vu ça l'année passée, quand Bruce Boudreau est arrivé, les Canucks sont montés en flèche, ils ont fait une séquence excellente. Le bump du nouveau coach vraiment s'appliquait à eux. Alors, si ça arrive, en ce moment, les Canucks sont à 2 points des Canadiens avec 2 matchs de plus à jouer. On peut peut-être s'attendre qu'ils vont dépasser le Canadien, puis c'est avec toutes
les Canadiens ont tout. Besoin qu'il y ait un changement d'entraîneur à Vancouver.
Ouais, c'est ça. puis ont besoin qu'Eric Carlson reste à San Jose. Avec ce qu'il fait, San Jose va probablement se départir de quelques joueurs aux dates limites, mais c'est une autre équipe qui pourrait peut-être dépasser le Canadien dans le classement, si tu veux, mais c'est vraiment ce spot-là que je pense le Canadien serait le plus content s'il terminait 28e. C'est vraiment la seule place réaliste parce que les Coyotes ont quand même 8 points. J'allais dire d'avance, là, mais c'est honnêtement, sont un retard de 8 points. Ce qui est probablement pas réaliste qui va être capable de rattraper le 15e, mais descendre 2 spots puis terminer avec les 5e meilleures chances de gagner la loterie, mais avec les meilleures chances de choisir 5e ou 6e, ça serait probablement un sweet spot pour les Canadiens. Puis je pense que c'est de ça que Ken Hughes parlait. Puis effectivement, ça devrait pas être perçu comme breaking news. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir un DG qui est capable de dire ça en public devant tous ses partisans et d'expliquer d'une façon très lucide et claire c'est quoi la direction de l'équipe. Comment va dérouler le plan d'une certaine façon. Le Canadien n'a jamais eu ça de leur DG. Honnêtement, là, je peux pas. Moi, ça fait.
Tu veux dire en termes de communication?
Ben, en termes de communication, puis en termes de ce message-là. de ce message étant que oui, on est mauvais, on sait qu'on est mauvais, ça fait partie du plan, ça fait partie du processus, mais notre plan est d'avoir une équipe non seulement qui va faire les séries à chaque année, comme Marc Bergevin disait tout le temps, puis effectivement, c'était son but à chaque année, on va faire les séries, puis on verra par après. Non, cette équipe-là aimerait bâtir une équipe qui va être un prétendant à la Coupe Stanley à chaque année, pas juste faire les séries. Alors ça, ça fait partie de ça. Et je pense que les partisans, honnêtement, ça fait... Ben, une bonne portion, au moins, pas c'est jamais unanime parmi les partisans du Canadien, mais je pense qu'une bonne partie des partisans du Canadien, ça fait longtemps qu'ils attendent de recevoir ce message-là. Que nous, on a un plan pour aller chercher la Coupe Stanley, c'est comme ça qu'on va le faire, mais ça va être difficile, puis il va y avoir des années difficiles. Mais la façon dont le Canadien le fait, je trouve, rend ça quand même intéressant. Tu sais, il y a des jeunes joueurs, tu peux suivre leur développement, tu sais, de voir un gars comme Harper Jacky, par exemple, jamais joué une minute dans la Ligue américaine. Tu sais, c'est drôle, mais on a passé tellement de temps à parler si Juraj Slafkovský devrait aller à la Ligue américaine cette saison. On n'en a jamais entendu ça concernant Harper Jacky. C'est non. À ce point-là que son jeu a été solide et puis ce qui amène à l'équipe est quelque chose que les partisans apprécient. Puis alors, c'est intéressant à voir. Tu sais, ça rend la saison intéressante même si les victoires ne sont pas nécessairement au rendez-vous très souvent.
Puis tu sais, dans un contexte où tu dis, ben là, on veut pas gagner trop de matchs, moi, c'est ce que je retire, ce que j'ai trouvé vraiment un peu l'élément, le prix de consolation dans la défaite de jeudi soir face aux Panthers de la Floride, parce que, tu sais, on a parlé plus tôt aujourd'hui, là, après l'entraînement du Canadien, à Martin Saint-Louis, puis qui disait, ben, faut que notre jeune équipe apprennent à contrôler un peu mieux ses émotions puis qu'elle réussisse à garder son calme au lieu de s'emballer puis de verser dans l'indiscipline de toutes sortes de manières. C'est vrai, mais en même temps, je trouve que la façon dont le Canadien a refusé de plier devant les Panthers hier, qu'ils se sont serrés les coudes les uns les autres, qu'ils se sont défendus les uns les autres, et l'esprit de corps qui s'est manifesté à un moment où c'était clair que le match était hors de portée pour eux. Quoique à 5-2, tu te disais, ah, ben, il en marque un autre, puis ça va être une remontée, tu sais, mais en tout cas, ça a été de courte durée. Mais je trouve que le sentiment, l'espèce de... tu sais, en anglais, ils appellent ça team toughness. J'ai jamais réussi à trouver encore de bonne traduction pour team toughness, parce que honnêtement, robustesse solidaire, ça marche pas.
Robustesse collective?
Collective, ouais, robustesse collective, ouais, c'est bon, ouais, c'est déjà mieux, ouais, ok.
Mais c'est même pas team toughness dans, en tout cas, je veux pas, mais
c'est non, ça. Mais c'est
team toughness, c'est plus une mentalité que d'autres choses.
C'est ça, oui, absolument, ouais. Mais c'est de ça que je te parle aussi. C'est pas le nombre de combats que les joueurs du Canadien ont fait hier soir, c'est la mentalité de dire on est un troupeau qui va se tenir ensemble, puis on va serrer les coudes, puis on va être un groupe uni. Même dans les moments, même dans les matchs où finalement, tu peux laisser tomber. Puis Martin Saint-Louis avait dit, les gars, mettez-vous pas à penser au match de samedi contre les Maple Leafs de Toronto. Vous avez un match à finir. Jouez votre troisième période. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont répliqué. Puis je trouve que si tu es pour aller chercher quelque chose dans une défaite, ben va chercher quelque chose qui, par la suite, va être utile au groupe. Et j'ai vu ça dans la défaite face aux Panthers de la Floride. Puis tu dis, ben, c'est le genre d'expérience qu'un groupe peut vivre, un jeune groupe peut vivre, puis ça, à partir de quoi, duquel il peut bâtir pour quelque chose qui va faire en sorte que plus tard, l'équipe va avoir développé le réflexe, justement, de se serrer les coudes, puis ils vont se dire, nous autres, coûte que coûte, on va jouer les uns pour les autres. Et puis, tu sais, ça revient un petit peu aussi à ce que mentionnait Kent Hughes dans l'extrait qu'on vous a fait jouer tout à l'heure, parce qu'il dit, moi, je me méfie que dans un contexte où il n'y a aucune imputabilité des joueurs, l'individualisme va prendre le dessus. Puis ça, je pense que le Canadien veille très, très bien. Martin Saint-Louis est bon à cet effet-là. Puis la personnalité des joueurs, des jeunes joueurs, surtout de cette équipe-là, sert bien justement le fait que dire on va éviter de tomber dans l'individualisme, puis on va s'assurer que, comme le veut le cliché, on va jouer pour le logo. Alors ça m'apparaît encourageant.
Oui, puis effectivement, c'est ça. ça tient. T'sais, tout ce que Kent a dit, on le voit sur la glace. T'sais, c'est ça l'affaire, c'est que ça a l'air, leur plan a l'air, premièrement, avoir de l'allure. C'est vraiment quelque chose qui est comme, qui prend beaucoup de choses en considération. T'sais, c'est une chose de dire, oui, on a besoin de repêcher un bon joueur, on veut faire tout de notre possible d'aller chercher ce joueur-là parce qu'il est spécial. T'sais, Connor Bedard, tout le monde l'a vu, tout le monde le sait. C'est un joueur qui pourrait changer une franchise. C'est clair. Mais il y a des conséquences pour ça. Puis juste, parlez-en aux Sabres de Buffalo. Honnêtement, les Sabres de Buffalo ont fait tout dans leur possible d'aller chercher Connor McDavid. C'est pas arrivé. Puis check ce qui est arrivé par après. C'était juste une série de mauvaises choses que moi, je suis convaincu à commencer avec cette décision-là. Que nous, on va être mauvais. On va être parmi les pires équipes de la Ligue nationale depuis comme une décennie, depuis longtemps, pour aller chercher ce joueur-là, parce que ce joueur-là va régler tous nos problèmes. Premièrement, ce joueur-là n'a pas réglé tous les problèmes à Edmonton, même si, en ce moment, c'est quand même une équipe intéressante, mais ça a pris beaucoup de temps. Et c'est loin d'être une équipe parfaite, là, même si Connor McDavid est clairement, à mes yeux au moins, le meilleur joueur au monde. Ils ne sont pas rendus en finale de la Coupe Stanley à date. Ils se sont rendus en finale d'association pour la première fois l'année passée. Alors, c'est comme, c'est vraiment, c'est pas une réponse qui va tout le temps porter fruit. Mais moi, je regarde les Sabres, puis je pense que c'est le Canadien a regardé les Sabres, puis a dit, nous, on ne veut pas ça. Nous, on ne veut pas que si tout ça tourne d'une mauvaise façon, les conséquences de ça sont trop, tu sais, Martin Saint-Louis parle tout le temps de risk-reward. Ça, c'est une question de risk-reward. OK, est-ce qu'on prend le risque d'être tellement mauvais que ça va créer, ça pourrait créer une culture qui est complètement malsaine juste pour avoir ce joueur-là? Ce qui est la récompense là-dedans, mais le risque était trop grand, je pense. Puis je pense que, tu sais, ils se sont dit qu'on ne va pas risquer ça, on ne va pas risquer notre culture et tout ce qu'on veut bâtir juste pour avoir ce joueur-là. On va se contenter d'un joueur qui est peut-être, qui est clairement moins bon, mais qui est quand même bon. Un joueur d'un haut calibre qui peut aider dans notre processus sans aller par ce chemin-là où on perd à chaque soir, puis on perd par plusieurs buts, puis ça devient déprimant, puis que nos jeunes joueurs passent une année au complet quasiment à rien apprendre. Et je pense qu'honnêtement, c'était la chose à faire. T'sais, on va voir dans quelques années qu'est-ce qui va se passer à Chicago comparé à ce qui va se passer à Montréal. Là. Mais moi, j'ai l'impression que la façon que Montréal le fait, c'est la bonne façon de le faire.
Ben, c'est que ça ressemble à la façon dont tu parles. C'est vrai que les Sabres sont un bon exemple, peut-être, à quoi ne pas faire, sauf qu'ils ont quand même réussi à repêcher. À avoir plusieurs hauts choix au repêchage dans les dernières années. Ils ont très bien sélectionné. Ils ont une banque de jeunes joueurs qui est parmi les meilleurs de la Ligue. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Mm-hmm.
Mais de la façon dont ils sont coachés maintenant, puis de la façon dont le développement de cette jeune équipe-là se fait, qui c'est pas centré sur un seul joueur comme c'était à l'époque de Jack Eichel, mais là, t'as des responsabilités sur Dallin, t'as des responsabilités sur Cousins, t'as des responsabilités, écoute, la venue, l'échange de Eichel qui a amené Alex Tuck, qui est un jeune vétéran qui apporte beaucoup de choses positives à cette équipe-là. Oh, Samuelson,
ouais.
Owen Power, écoute, ça leur sort par les oreilles.
Tate Thompson,
oui. Comment l'oublier? Comment l'oublier? Fait que tu sais, ils ont je pense que c'est une approche où justement, tu prends ton temps avec ces jeunes joueurs-là pour t'assurer qu'ils soient alignés de la bonne façon. Ils sont très heureux du travail que Don Granato fait là-bas. Et je pense que le changement de cap qu'ils ont opéré depuis le changement d'entraîneur, depuis l'arrivée de Kevin Adams comme directeur général, tu sens que le bon vieux sabre dont toute la ligue riait, puis tu dis, ah ben là, tout ce qui peut aller mal, ça va aller mal à Buffalo. C'est plus le cas là. Puis ça, il y a clairement eu un changement de paradigme avec eux autres. Puis là, autant ils ont été un anti-modèle pendant 10 ans, Là, j'ai l'impression que c'est vraiment une équipe que tu peux regarder. Tu dis, là, dernièrement, la façon dont ils se prennent, là, ils ont trouvé la bonne manière de s'y prendre.
Ouais. Puis l'autre chose que je veux dire, c'est que juste parce que c'est pas, ça a mal été à Buffalo, puis tu peux faire l'argument que ça a mal été à Edmonton aussi. Il y a des cas où ça manque. Tu sais, je trouve que. Puis non, c'est vrai qu'ils n'ont rien fait en série, mais tout le monde s'entend que les Maple Leafs de Toronto, c'est quand même une bonne équipe. Ils sont bien bâtis, puis eux autres, ils l'ont fait. Tu sais, eux autres, ils ont décidé une année que. OK, il y a un joueur qui est très spécial, disponible dans le repêchage cette année. On va être très mauvais. On va nous donner les meilleures chances d'aller chercher ce joueur-là. Ils ont réussi à le faire. Puis ils ont rebâti l'équipe. Puis ils ont devenu une bonne équipe. Alors, c'est ça, c'est juste pour donner l'autre côté que oui, c'est possible que ça marche. T'sais, ça pourrait marcher. Mais c'est ça encore, quand tu parles de risque récompense, là, c'est ça l'affaire. C'est que tu prends le risque que ça va tout devenir comme c'était à Buffalo pendant longtemps. Puis je suis entièrement d'accord que c'est plus le cas à Buffalo maintenant, mais ça a pris longtemps. Je prends le risque que ça devienne ça. Et je fais tout ça pour avoir une chance sur quatre de repêcher le gars que je veux. Tu sais, ce qui est quand même trois chances sur quatre que je ne vais pas l'avoir. Alors, c'est comme tout rentre dans le balance. Puis, tu sais, la loterie de la LNH, quand le Canadien l'a remporté, c'était comme, je pense que c'était la deuxième fois en... Oh, c'était quoi le numéro, là? C'était deux fois en... La deuxième fois en 11 ans ou quelque chose que la pire équipe de la Ligue a remporté la loterie. C'est, il y avait Buffalo, je pense, l'année de Rasmus Dahlin, si je ne me trompe pas, puis à Montréal. Puis l'autre année où Buffalo a repêché Owen Power, c'est le Kraken de Seattle qui avait remporté la loterie, mais il n'avait pas le droit de choisir premier cette année-là. C'était dans les conditions de l'expansion. Alors Buffalo a eu ce choix-là, mais il n'avait pas remporté la loterie. Alors c'est comme, ça arrive quand même rarement, puis le système est bâti pour faire en sorte que de décourager le tanking, le sabordage. Tu sais, alors, étant donné toute l'information que toutes les équipes ont, j'ai quand même la misère à croire qu'une équipe va vivre une saison au complet en espérant gagner une loterie. C'est pas simple. Je trouve ça pas simple. Puis, je suis d'accord que Chicago, la façon qu'ils le font, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes joueurs sur l'équipe, que leur avenir n'est vraiment pas à Chicago en ce moment, ça leur donne un peu d'espace pour faire ça. C'est un peu plus de sens pour eux que ça aurait été à Montréal, que tu peux faire l'argument Arizona, il prend un risque là, que plus, tu sais, quelques-uns de leurs jeunes joueurs talentueux sont en train de vivre quelque chose de difficile. Anaheim, même chose. Mais c'est ça, je trouve le risque ne vaut pas la peine parce que les conséquences peuvent être quand même assez sévères.
OK. Un autre élément dont il a été question durant la conférence de presse, en fait, c'est la question que tu as posée à Kent par rapport à la communication qu'il entretenait avec, entre autres, ses vétérans, ceux dont le nom circule sur le marché des échanges. Mmh. Et puis, il a évoqué, évidemment, le nom de Joel Edmundson, ça, c'est bien évident. Mais il a également parlé de Josh Anderson en disant que Josh Anderson, il est continuellement en demande. Les gens, les autres équipes appellent Kent Hughes sans arrêt depuis qu'il a été nommé comme directeur général du Canadien. Et puis, évidemment, c'est un... Hughes aime l'appeler une licorne, étant donné qu'il est rare. C'est un profil qui est très, très rare. Mais ça, et j'ai réalisé, parce que j'ai écrit un texte sur Athletic par rapport, justement, le statut actuel de chacun des principaux joueurs susceptibles de changer d'adresse. Et je vais constater en lisant les commentaires, parce que j'aime me faire violence, fait que des fois, je lis les commentaires. Et puis...
Tu fais ce que je te dis, pas faire.
C'est ça, exactement. Ouais. Non, mais c'est-tu quoi? On est chanceux parce qu'on a des lecteurs qui... moi, je trouve qu'on a des lecteurs qui sont...
Ouais, c'est vrai.
Bien éduqués, puis c'est pas comme le commentaire moyen sur Internet, là. En tout cas, mais le cas de Josh Anderson semble créer une réaction très vive, très spontanée chez les amateurs, puis il y en a plusieurs qui souhaitent que le Canadien passe à l'action, puis il passe par-dessus le fait que c'est un profil de joueur qui est rare. puis dire, ben, au contraire, au salaire qu'il gagne, s'il est pour, attirer autant d'attention vers lui puis être, susciter autant d'intérêt, ben, que le Canadien en profite et qu'il aille chercher d'autres actifs plus jeunes, peut-être à d'autres positions, des choix repêchage, des espoirs, peu importe, mais qui profite de l'occasion pour monnayer Josh Anderson. Toi, par rapport à Josh Anderson, où est-ce que tu te situes?
Je comprends l'idée que c'est un joueur rare, un profil de joueur qui est rare puis qui est convoité. Il y a plusieurs équipes qui cherchent un package comme Josh Anderson, ou comme Alex Tuch et Tage Thompson qui ont été mentionnés tantôt. Là, c'est quand même plus Alex Tuch que Tage Thompson. Tage Thompson est vraiment une licorne. Là, il n'y a pas de joueur comme lui. Mais Alex Tuch est dans le même gamme de joueurs, la même catégorie. Ben, meilleur que Josh Anderson, on s'entend, mais en termes de profil. Évidemment, tout le monde mentionne Tom Wilson. T'sais, ces joueurs-là sont rares. Et je comprends ça. Je parlais à un dépisteur au match l'autre soir, puis on jasait de quelques trucs ici et là, puis tout d'un coup, il m'a demandé, Josh Anderson, tu penses-tu qu'il serait d'accord de l'échanger? Puis je suis comme, ben peut-être, je sais pas, mais il y a plusieurs années à son contrat, il y a une salaire qui est quand même assez élevée. Ouais. Puis, mais je sais pas, tu sais, ça se peut. J'imagine que si l'offre est assez bonne, c'est sûr qu'ils vont écouter. Tu sais, je peux pas parler pour le Canadien, mais j'ai l'impression que, tu sais, Ken Hughes arrête pas de dire à quel point les équipes appellent pour avoir des nouvelles de Josh Anderson. Alors, c'est clair qu'il écoute. Alors, s'il y a une offre qu'il peut pas refuser, on l'a déjà vu, il voulait pas échanger Arthur Ilekonen, puis il l'a fait parce qu'il y a eu l'offre. Qui a fait en sorte que qu'il l'a changé, tu sais. Puis c'est aussitôt que Justin Barron a été entré dans la discussion, il a dit oui. Alors, s'il y a un certain profil de transaction que Kent et Jeff Gorton identifient pour considérer échanger Josh Anderson, je pense qu'ils pourraient l'échanger. C'est ça. Mais j'ai dit, tu sais, c'est comme... Je pense que l'idée de Josh Anderson est meilleure que le Josh Anderson actuel, le vrai Josh Anderson. T'sais, c'est comme l'idée d'un gars qui est tellement gros et grand et rapide et un vrai attaquant de puissance, un gars qui peut marquer des buts. En théorie, c'est bien meilleur que le Josh Anderson qu'on voit à chaque soir. T'sais, c'est quand même une idée d'un joueur plus que le joueur lui-même. Mm-hmm. Alors, quand j'ai dit ça, le gars avec qui je jasais était comme, l'affaire, là, peut-être ça va changer un jour quand notre profil change, mais nous autres ici, là, puis Affi avec sa main, il a comme montré le rangé où les dépisteurs s'assoient, il dit, nous autres aussi, on aime des joueurs comme lui. Puis peut-être qu'un jour ça va changer, mais pour l'instant, des gars comme nous aiment des gars comme ça. Et je trouve ça comme intéressant, tu sais. Puis il a reconnu que tout ce que je disais de lui, parce que lui, il le voit presque aussi souvent que moi, tout ce que je disais de lui était vrai, mais juste l'idée d'avoir un joueur comme ça, toutes les équipes cherchent ce joueur-là.
Ouais.
Alors, tu sais, c'est quand même un actif intéressant à avoir si t'es Kent Hughes. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille, puis tu l'as mentionné dans ton texte, c'est que aussitôt que tu échanges ce gars-là, tu vas à la recherche de ce gars-là. Tu pars à la recherche de ce gars-là. Tu sais, c'est comme... Le meilleur exemple, c'est que... Ben, pas le meilleur, mais un exemple de ça qu'on a vu ici à Montréal, c'est que l'échange de Piqué Subban contre Shea Weber... Écoute, Shea Weber... Personne ne peut faire l'argument que Shea Weber n'a pas rendu des bons services aux Canadiens. Puis en fait, tu peux facilement faire l'argument que Shea Weber a eu une meilleure, disons, carrière après échange que Piqué Subban, il l'a eu. Tu sais, il a quand même été échangé encore. Puis les deux, en fait, ont été forcés de prendre la retraite trop tôt. Mais aussitôt que Piqué Subban était parti, c'est quoi que le Canadien avait besoin? Il avait besoin d'un défenseur offensif qui pouvait bouger la rondelle. Tu sais, c'était tu crées un trou pour remplir un autre trou parce que tu avais besoin d'un... T'avais besoin d'un leader, t'avais besoin d'un gars de caractère qui allait instaurer une culture au sein de l'équipe, et c'est ça que Shea Weber a fait. Et ça n'enlève rien à Shea Weber. Il a amené beaucoup de choses au Canadien, mais ce que Subban a amené Aussitôt qu'il est parti, le Canadien était à la recherche de ces choses-là. Et il me semble que ça se peut que si Anderson est échangé, que le lendemain de cet échange-là, ils vont être à la recherche d'un joueur comme Josh Anderson.
Ouais. Ben écoute, il reste encore 4 ans à son contrat à 5,5 millions par année. Et quand on voit l'inflation que tu sais dans les signatures de contrat, parce que c'est bizarre, hein? Il y a de l'inflation pareil dans les dans la Ligue nationale, mais le plafond augmente pas. Alors on dirait que le prix, le salaire moyen a l'air d'augmenter, mais sans que le plafond, lui, ne bouge vraiment. Fait que c'est évidemment, c'est la classe moyenne qui écope, qui se fait comme écraser au milieu, puis finalement on se ramasse avec des joueurs qui sont mieux payés qu'avant dans les joueurs plus haut de gamme et beaucoup de joueurs qui ne gagnent pas cher. Mais Anderson à 5,5 millions, ben c'est pratiquement ça la nouvelle classe moyenne. Fait que peut-être que ouais. Je pense que c'est le genre de gars qui, à mon sens, même si 4 ans c'est long, mais il a démontré. Ce qui est encourageant, c'est qu'il est sur une séquence où il a l'air d'être en bonne santé. T'sais, il a pas. Il inspire pas nécessairement l'inquiétude par rapport au fait, tu sais, est-ce qu'il est sur du temps emprunté, à quand est-ce qu'il va se reblesser, tu sais, un petit peu la même sensation, le même doute que les autres équipes peuvent avoir, évidemment, à l'égard de Sean Monahan, qui n'est toujours pas revenu au jeu, et aussi, d'une certaine manière, à l'égard de Joel Edmondson. Anderson, c'est moins le cas. Mais je regarde la formation du Canadien en ce moment, puis, tu sais, on parle beaucoup de jeunesse et de savoir encadrer ces jeunes-là avec des vétérans autour. Là, Drouin va partir, Dadonov va partir, Byron va prendre sa retraite, ou du moins, s'il ne prend pas sa retraite, son contrat avec le Canadien arrive à échéance, on verra bien ce que l'avenir lui réserve en termes de santé. Mais après ça, les autres attaquants, vétérans qui vont rester au Canadien, c'est pratiquement tous des vétérans qui seraient là parce que tu dis que ça serait trop compliqué de les échanger. Ça va être difficile d'échanger Hoffman, ça va être difficile d'échanger Armia, ça va être difficile d'échanger Gallagher. T'sais, alors, il reste ouais. Anderson et Dvorak, qui sont les deux vétérans que tu dis, ce sont des actifs qui sont intéressants, puis on peut... Mais dans quelle mesure... La question que je me pose, c'est dans quelle mesure, si le Canadien veut bâtir autour de ses jeunes, peut se permettre de laisser partir une grande majorité des vétérans qui ont un ascendant sur les jeunes, qui ont une influence positive sur les jeunes. Ce n'est pas le cas de tous ces vétérans-là, mais il y en a, puis Anderson en fait partie. Jusqu'à quel point l'équipe peut se permettre d'avoir un certain roulement chez ses leaders plus âgés. Alors, s'ils échangent Edmondson, ben, il reste David Savard, mais est-ce que si tu échanges en plus Josh Anderson, tu commences à manquer de grands frères, non?
Ben peut-être, mais tu sais, il reste 2 ans après cette année au contrat de Dvorak, 1 an à Hoffman. Drouin serait parti, Dadonov serait parti. Gallagher serait encore là. Tu sais, on s'entend que Gallagher s'en va nulle part. Armia serait encore là. Evans est sur le point de devenir un genre de grand frère. Un peu. Je pense que c'est une considération, mais c'est aussi une considération que ces grands frères-là, au fur et à mesure, vont commencer à partir. Mike Matheson serait là. Tu sais, il y a quand même des joueurs intéressants pour remplir ce rôle-là. Puis honnêtement, comme tu viens de mentionner, c'est pas comme si les Canadiens, c'est pas comme si la plupart des joueurs, des vétérans du Canadien sont. Il y a des équipes qui sont en train d'appeler tout le temps sur eux. Là. Il y a une raison pourquoi Ken Hughes continue à mentionner le nom de Josh Anderson, c'est parce qu'il reçoit des appels sur lui. La raison pour laquelle il veut publiciser ça, c'est pas tout à fait clair, là, mais à chaque fois qu'il a l'opportunité de le faire, il mentionne que reçois plein d'appels sur Josh Anderson. En fait, la question que j'avais demandé était pas spécifique du tout, là. C'était très vague, c'était très général. Tu sais, comment tu communiques avec ces vétérans-là sans nommer le nom ni Edmondson ni Anderson, particulièrement pas Anderson parce qu'il était même pas dans ma tête quand lui a mentionné Anderson. C'est venu de lui, là. Alors, c'est comme. Ouais. Alors, tu sais, moi, je suis de l'avis que si tu peux te départir de 5,5 millions de dollars sur ton masse salariale, étant donné les problèmes de masse salariale qui existent, tant mieux de le faire. C'est honnêtement, c'est... Mais je comprends. Je comprends le valeur qu'il a. Je comprends pourquoi les évaluateurs de hockey l'aiment. C'est parce que oui, effectivement, c'est un gars qui est aussi gros que lui, qui joue aussi physique que lui, puis qui peut patiner comme lui. Il y a une grande valeur. Une valeur qui dépasse ses chiffres. Tu sais, ses montants de buts, tu sais, l'année de 28 buts à Columbus, ou 27 buts. Je pense pas qu'on va voir ça, mais à part cette année-là, il a quand même été constant. Tu sais, 17 buts à Columbus, 19 buts. Après, c'était 27. Puis à Montréal, 17 en 52 matchs, 19 en 69 matchs. Puis cette année, c'est 13 en 44 matchs. Alors, t'as quand même une production assez constante de sa part. Ouais. Puis il amène toutes les autres choses. Puis effectivement, une fois rendu en série, son impact devient beaucoup plus grand. Tu sais, c'est comme quand tu fais face à la même équipe à chaque soir ou à chaque deux soirs. Puis ce même joueur-là qui arrive en forecheck, qui va finir ses mises en échec, qui va te frapper, qui va t'agacer, qui va... Tu sais, honnêtement, ça me reste dans la tête à quel point les défenseurs des Leafs de Toronto se débarrassaient de la rondelle quand Josh Anderson était sur la glace. Tu sais, ils voulaient pas, ils étaient tannés d'être frappés par ce gars-là, puis ils voulaient rien savoir de la rondelle. C'est comme, hey, you take it. Tu sais, je m'en vais. Je veux pas ça. Il va venir vous frapper, puis ça ne me tente plus. Alors, il y a eu un impact sur la série. Même s'il n'a pas marqué plein de buts ou a eu un impact offensif, non, juste cet aspect-là de son jeu a eu un impact tangible, comme évident sur la glace. Alors, ça aussi, ça a une valeur. Mais c'est pour ça que Ken Hughes reçoit ces appels-là. Alors, encore une fois, il va falloir trouver l'équilibre entre la valeur de joueur sur le marché de transaction et la valeur de ce même joueur-là au sein de ton équipe, parce que je pense que ça serait aussi raisonnable. À un moment donné, il faut se demander pendant combien de temps est-ce que Josh Anderson peut continuer à jouer comme ça? Tu sais, il a 28 ans, il reste 4 ans à son contrat, alors il aura 32 ans quand ça va être terminé. Une fois qu'il dépasse le cap de la trentaine, est-ce qu'il va être le même joueur? Est-ce qu'il va continuer à jouer comme ça? S'il ne joue pas comme ça, est-ce qu'il y a beaucoup de valeur? Un Josh Anderson qui ne joue pas comme ça, on sait que Martin Saint-Louis essaie de changer son jeu, de le rendre plus diversifié et un peu plus moderne, disons. Je ne sais pas à quel point il connaît du succès en essayant de faire ça, mais la façon que Josh Anderson joue est à valeur maintenant, ça c'est clair. Alors, c'était un prétendant à la Coupe Stanley, là, ajouter un Josh Anderson, je peux voir pourquoi il y a des DG qui seraient intéressés à faire ça.
Oui, parce que c'est probablement pas à Montréal qu'il est à même de donner le meilleur hockey qu'il est capable de donner. Tu sais, je pense que c'est un gars qui peut être une bête de séries éliminatoires. Puis là, il n'ira pas avec le Canadien cette année, puis probablement pas l'année prochaine non plus. Tu sais. Alors, pendant ce temps-là, est-ce que dans le fond, tu sais, d'une certaine manière, puis je sais que le calcul est complètement différent, mais tu sais, tout à l'heure, on parlait des Blackhawks de Chicago. Quand ils ont décidé d'échanger Alex DeBrincat, c'est pas parce que DeBrincat marquait plus de buts pour eux ou quoi que ce soit, c'est juste que ils n'allaient pas être en mesure de maximiser, de profiter pleinement des meilleures années de DeBrincat, surtout au salaire qu'ils allaient demander. Puis à ce compte-là, valait mieux l'échanger pour des actifs qui allaient être mieux alignés avec l'âge de la prochaine génération de Blackhawks qui allait s'en venir. Là, dans ce cas-ci, si on applique ça à Anderson, est-ce que dans le fond, les meilleures années qu'Anderson a encore à donner, c'est dans l'uniforme du Canadien qui peut les donner, ou dans le fond, s'il s'en va ailleurs, puis que le Canadien va chercher un maximum en retour de ses services-là, pourrait lui aussi essayer de réaligner ça, si tu veux, sur la prochaine génération, puis faire en sorte que le gars qu'ils vont chercher en retour d'Anderson, puisse atteindre un peu son pic ou rentrer vraiment dans son apogée dans 4, 5, 6 ans. Tu sais. Fait que je pense que ça doit rentrer dans la discussion aussi, mais ce qui est clair, c'est qu'Anderson, à mon sens, Anderson a moins de chances de quitter d'ici la fin de l'année que Joel Edmondson. Ça, c'est limpide à mes yeux.
Ouais, c'est même pas proche. Les chances qu'il quitte pendant la saison ou avant la date limite sont très minimes. Là. Avec, à ce salaire-là, c'est difficile. Là. Honnêtement, ça va être très difficile de le faire. Ben, je suppose que c'est pas impossible, mais ça me surprendrait quand même.
Mais je pense pas que ce soit à cause du salaire autant qu'il va falloir que l'offre soit bonne. T'sais. Il faut que. Va
ben, falloir qu'une hockey, autre équipe. Ce serait un hockey trade.
C'est ça.
Il faudrait que le joueur revienne ou deux joueurs ou whatever, mais il faudrait que l'argent fonctionne. Là. Alors, et si l'argent fonctionne, tu te demandes pourquoi faire ça. Ça doit être ça. S'il faut égaler l'argent, ça veut dire que tu reprends des contrats. Tandis que la raison principale que tu veux échanger Josh Anderson, c'est effectivement pour des raisons de masse salariale. C'est ça, alors ça fit pas. S'il faut reprendre l'argent, tant qu'à ça, je garde le joueur. Si tu aimes le joueur, puis je pense que le Canadien l'aime, là, alors c'est un peu ça le débat. Mais en parlant, premièrement, on s'entend que toi, tu viens comme quasiment de garantir que Josh Anderson va se blesser demain contre les Leafs. C'est un peu... ça donne une bonne transition à parler effectivement de l'état de santé de l'équipe, encore une fois, qui est lourd, qui est difficile à gérer. Blessure au genou gauche de Juraj Slafkovský dimanche à New York. Qui va pas nécessiter une procédure chirurgicale, mais quand même, va le garder à l'écart pendant 3 mois. J'ai entendu qu'il a évité le pire, mais quand même, c'est une blessure de 3 mois. Là, ça commence vraiment, honnêtement, là, depuis... Ben, ça pas commence, ça continue à être un sujet avec cette équipe-là, que les joueurs se blessent souvent. On n'est pas capable de donner une bonne échéance ou une bonne indication de combien de temps ça va prendre pour établir. Tu sais, récemment, il y a un cas de Brendan Gallagher qui s'est blessé, il est revenu, il a rejoué, il s'est reblessé. Premièrement, ils ont dit 2 semaines, puis après, c'est devenu 6 semaines. Après, tout ce qui s'est passé avec Price, puis Weber, puis plein d'autres cas, Paul Byron,
Monahan, il était pas censé, là, il est rendu quoi, 7 semaines? Là?
Ça fait longtemps, c'était début décembre. Là. Début décembre, ouais. Alors oui, c'est ça, on est rendu pas mal à 7 semaines, puis c'était pas censé être ça. Puis... Alors, tu sais, la question se demande, puis particulièrement là que c'est Juraj Slafkovský qui rentre dans le système de soignage de l'équipe, là. T'sais, il me semble qu'on a déjà fait des épisodes sur ce sujet-là, mais ça continue à être un sujet. Puis Ken Hughes a été demandé, en fait, par notre autre collègue, Guillaume Lefrançois, sur le département médical. Le Canadien doit vraiment faire une étude profonde de leur rendement en termes de soigner les blessures, prévenir les blessures, et pourquoi ça se fait pourquoi c'est le cas avec cette équipe-là, puis avec très peu d'autres équipes, qu'ils sont juste pas capables de ramener ces gars-là sur la glace dans un délai raisonnable.
Oui, c'est ça, je reviens là, avec ma statistique du début de l'émission. T'sais, ils vont encore finir dans le top 5 pour le nombre de matchs ratés. C'est inquiétant. T'sais. Je comprends, j'ai tendu la perche à Martin Saint-Louis à ce sujet-là. Je voulais savoir si lui... voyait quelque chose dans le type de hockey aujourd'hui qui faisait en sorte que les joueurs étaient plus susceptibles de se blesser. Mais ça, à la grandeur de la ligue, la vitesse du jeu, ce qu'il leur est demandé en termes de niveau de conditionnement physique, de dépassement de soi, parce que forcément, à mesure que le niveau de compétition augmente, si tu veux garder ta place, ben, tu as intérêt à toujours en donner plus, à avoir le pied dans le tapis complètement tout le temps. Je pense que ça expose les joueurs à plus de blessures, surtout avec la vitesse du jeu, le temps de réaction, etc., la puissance des joueurs eux-mêmes. Mais tout ça étant dit, ça c'est vrai pour toutes les équipes. Tandis que quand tu regardes chez le Canadien, là, on savait qu'on allait commencer la saison sans Price et Byron, mais à part eux, il y a 9 autres joueurs qui sont blessés à l'heure actuelle. C'est beaucoup. Puis c'est des gars que tu dis, ah ben là, c'est du... au jour le jour, puis finalement, non, ça va être un peu plus long. Tu sais, mais Kent Hughes a mentionné, il dit, il y a un des aspects sur lesquels on va devoir travailler, c'est faire attention à protéger les joueurs d'eux-mêmes parce qu'ils sont, ils ont envie de revenir vite et puis il faut, qu'on garde la bride serrée pour éviter qu'ils s'exposent à aggraver des blessures. Peut-être que c'est le cas de Sean Monahan. C'est le fait qu'il a... il a joué le match à Calgary, son match où il est revenu devant ses anciens partisans face à son ancienne équipe. Mais au moment d'arriver à Calgary, il avait une botte protectrice déjà au pied droit. Ouais. Il était déjà blessé. Il a décidé de jouer. Puis il a joué ensuite à Edmonton. Il a voulu jouer à Vancouver. Tu dis, là, à un moment donné, il faut que tu protèges le gars de lui-même parce que tout ce temps-là, non seulement son pied était déjà fracturé, mais en plus, il y a d'autres parties du corps qui compensent et qui ouvrent la porte à ce qu'il y ait d'autres blessures après coup. Ouais. Tu as mentionné le nom de Gallagher. Lui, c'est un expert là-dedans de toujours vouloir revenir plus vite et de battre les pronostics. Mais je pense que le Canadien, dans l'ensemble, doit revoir la façon dont il approche les blessures parce que pour l'instant, là, il m'apparaît y avoir un problème évident, que ce soit au niveau des échéanciers, la façon dont ces gars-là sont on les aide à prévenir les blessures, justement, compte tenu du contexte dans lequel le hockey se joue aujourd'hui. Mais à mon sens, il y a anguille sur roche. Là. Et tu parlais de Slavkovski, je vais terminer là-dessus. Là, son cas, 3 mois d'absence, une blessure au genou qu'on décide de ne pas opérer, ben je pense que là, si le compte est de une balle, deux prises, là, ben la troisième prise, ça risque d'être Juraj Slavkovski si ce dossier-là n'est pas géré comme il faut.
Ouais, exact. Puis honnêtement, la décision de pas... écoute, c'est pas comme si une opération... Il y a une garantie de succès, puis des fois, c'est la bonne chose, c'est de pas se faire opérer. Mais je me rappelle Jonathan Drouin l'année passée qui a pas décidé de pas opérer son poignet parce qu'effectivement, il voulait jouer pour Martin Saint-Louis. Il aimait la nouvelle direction de l'équipe. Puis c'est un nouveau DG, un nouveau vice-président, un nouveau coach. C'est une façon pour lui de faire ses preuves à un nouveau groupe de personnes qui n'ont pas fait son acquisition. C'est ça, c'est quelque chose. Acquisition, je veux dire. Ouais. Alors, ils n'ont pas opéré. Il est revenu et joué 2 matchs. Ah, check! Il va falloir opérer le poignet. Alors, tu sais, c'est comme... Les cas deviennent trop nombreux. Tu sais, tu parles d'un gars qui a joué sur un pied cassé, comme c'était le cas avec une fracture au pied, comme c'était le cas de Sean Monahan. Ben, Shea Weber l'a fait aussi. Puis je me rappelle, à cette époque-là, après qu'il y a eu son chirurgie, finalement, qu'il était comme... Ben, tu sais, c'est pas comme si j'ai jamais joué sur un pied cassé de ma vie, là. Je le faisais tout le temps. C'était pas grave. Alors, c'est ça, la mentalité du joueur. Mais vu que c'était cassé à une place tellement pas habituelle puis tellement délicat que ça causait d'autres dommages en continuant à jouer. Puis effectivement... Éventuellement, ça a terminé sa carrière. C'est un gars qui voulait jouer dans la quarantaine. C'est quelqu'un qui voulait quelque chose qu'il voulait vraiment. En fait, il voulait signer un autre contrat après la fin de ce contrat-là. C'était ça son but. Ouais. Tout le monde pense qu'aussitôt que le salaire baissait dans son contrat, qu'il allait arrêter de jouer. C'était pas son intention pendant tout. Honnêtement, il voulait y regarder que la façon que Chara allait, puis admirer ça, puis il voulait suivre ce modèle-là. C'est quelque chose qu'il voulait faire vraiment, puis il n'était pas capable parce que, à cause de la gestion de cette blessure-là, puis je comprends que la blessure était très rare, la chirurgie qu'il a reçue d'un médecin à Green Bay, c'est aussi très rare, particulièrement parmi les joueurs de hockey. Le docteur à Green Bay, c'est un spécialiste du pied, reconnu autour du monde, c'est quand même quelqu'un de très réputé, mais c'était trop tard. La décision... Et le diagnostic original qui n'a pas identifié le fait qu'en jouant là-dessus, il va faire d'autres dommages à ses ligaments, à plein d'autres choses dans son pied, là, c'est malheureux. Puis moi, j'aurais pensé que une fois que cet événement-là est arrivé et que le dénouement de cet événement-là a eu lieu avec le quasi-retraite du joueur, non seulement un joueur, mais un joueur qui est adoré par tout le monde. T'sais, c'est comme quand même le capitaine de l'équipe, un joueur que, tu sais, aurait été dans la discussion, et ça se peut qu'il le serait anyway, mais aurait été dans la discussion pour le Temple de la Renommée un jour, peut-être. De voir ce qui s'est passé, j'aurais pensé que comme organisation, il serait capable de dire, OK, bon, mais là, je pense que c'est le temps qu'on revoie les façons qu'on fait des choses. T'sais. Il va falloir faire un diagnostic de nous-mêmes, t'sais, une auto-évaluation. Et il me semble pas que ce processus-là est entamé, puis c'est vraiment quelque chose que je pense que ça fait longtemps qu'il aurait dû faire. Alors, je me demande, tu sais, Ken Hughes a dit qu'on est tout le temps en train de regarder tout, puis il faut évaluer ça, puis, tu sais, il a donné une réponse quand même assez vague, mais je pense que à la fin de cette saison-là, tu sais, 2 ans de suite, où les blessures sont tellement nombreuses que c'est quelque chose que le Canadien doit prendre très au sérieux, puis faire un bon regard avec des experts externes et faire une évaluation de la façon qu'ils font les choses, parce que je pense qu'il y a des améliorations qui peuvent être faites.
Absolument. Absolument, Arpin. Puis je pense que c'est tu mets une bonne touche finale à notre épisode. J'ai rien à ajouter là-dessus. J'ai tu as l'entièreté du message. Merci tout le monde d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour cet autre épisode du Support Athlétique. Si jamais vous nous écoutez sur Apple Podcast, ben profitez-en donc pour aller soit mettre une note ou écrire un message, quoi que ce soit, si vous appréciez ce podcast. Évidemment, plus il y a de gens qui votent, plus c'est facile pour d'autres personnes de nous trouver. Alors, vous pouvez évidemment nous écouter sur la plateforme de votre choix. Je vous invite également à vous abonner à The Athletic si jamais vous ne l'êtes pas. Vous pouvez toujours obtenir un rabais sur la première année de votre abonnement annuel en allant au athletic.com/supportathletique. Donc, ça va vous donner un rabais sur la première année de votre abonnement. Alors, Arpin, nous, on se retrouve lundi pour The Athletic Support.
Absolument. Je ne manquerai jamais une chance de parler avec toi, Marc-Antoine.
Correct. Honnêtement, là.
Ouais, je peux, mais non, je préfère faire ça devant tout le monde, comme ça.
Okay. Alors, c'est ça. Parfait. Ouais.
On ferait ça lundi.
OK, on fera un meeting. On fera notre meeting de production de la semaine à venir au micro devant tout le monde. Les gens vont adorer.
C'est pas mal ça. Pas mal ça.
Bon. All right, à bientôt tout le monde. Bye bye.